canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá, verdilinho, acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Beija-flor, papa-capim.
João Selva est de retour naviguant sur la mythique Atlantique Noire, cette fameuse trajectoire imaginée qui unit le Brésil et les Caraïbes à la côte ouest africaine, crée une musique exaltante dont les vibrations nous invitent à Rio, aux Caraïbes, au Cap-Vert et même en Angola. Connu comme l'un des ambassadeurs des rythmes brésiliens en France, João est un vrai carioca, un natif de Rio de Janeiro. Alors en ce dimanche au Festival Tempo Latino édition 2023, on a une grande chance aujourd'hui de retrouver un compagnon de route franco-brésilien que nous avions déjà rencontré sur l'édition 2022, donc en compagnie de João Selva, qui s'est produit déjà plusieurs fois à Tempo Latino et qui va encore se reproduire d'ici quelques heures sur la scène de la Conga. Alors João, bonjour déjà.
Bonjour, tout bien?
Ça va très bien, merci. Alors passage sur 3 jours au Festival Tempo Latino, c'était une promesse du directeur artistique Eric Dufaux de te faire jouer sur une nouvelle scène, la Conga. Alors tu as aussi joué au Cap Tempo, ça devait être hier que tu as joué au Cap Tempo également. Alors quel effet ça te fait déjà d'avoir joué après le discours d'ouverture sur cette nouvelle scène?
Bah, c'était un honneur d'ouvrir la programmation sur cette scène Conga. C'est vrai que l'année dernière, on avait été un peu surpris de ce mot du directeur Eric Dufaux qui nous disait bah, « vous remportez le prix du off, donc vous reviendrez l'année prochaine ». Et en plus, donc, on a la joie de venir pour 3 soirs. Et en plus, c'est vrai que là, on est sur une tournée assez intense au mois de juillet avec une quinzaine de dates. Donc de pouvoir passer 3 jours au même endroit, déjà, c'est super. Et puis bah, profiter du coup un peu de cette ambiance incroyable ici à Tempo Latino.
Alors du coup, se produire 3 soirs, enfin sur 3 journées, puisque tu passes aussi la journée, avec des différences climatiques, ça n'a pas une influence aussi sur le matériel?
Alors oui, ça joue sur le matériel, mais c'est vrai qu'on est dans un public ici qui est très enthousiaste, et même quand on joue à midi, les gens sont là pour faire la fête, pour danser, et donc c'est très agréable. Et malgré la chaleur, c'est vraiment un public d'aficionados, comme on dit, et du coup pour nous, bah, c'est que du bonheur, parce que quand on a un public comme ça qui réagit tout de suite, et bah, pour nous c'est vraiment du plaisir sur scène.
Ouais, c'est de la transmission d'énergie. C'est vrai qu'on en a eu, plein la figure là sur ces derniers jours, et je pense que ce soir ça va être la même chose là à 18h. Comment l'équipe se sent avant de se produire une dernière fois là?
Et ben là on récupère un petit peu des forces justement pour être au top tout à l'heure pour le concert. C'est un public qui est très très large aussi, donc c'est vrai que même si on a joué 3 jours, il y a encore des gens qui découvrent, et en même temps il y a des gens qui ont déjà vu aussi et qui sont là aussi pour essayer de profiter un petit peu jusqu'au bout, et donc c'est un plaisir de profiter de cette ambiance jusqu'au bout du festival.
Alors on reviendra un peu sur ta tournée après, parce que c'est pas terminé effectivement, tournée estivale. Est-ce que les instrumentistes sont les mêmes que l'année dernière, ou est-ce qu'il y a eu des petites modifications, des petites variations d'équipe?
Alors l'année dernière, exceptionnellement, on avait eu le bassiste et le batteur remplaçant qui étaient là. Et donc là, on a un petit peu l'équipe officielle, on va dire, au complet. Ils ont beaucoup entendu parler de Tempo Latino l'année dernière. Ils ont dit, bah là, on rattrapa cette année. Et donc voilà, tout le monde s'est organisé pour être là. Après, c'est vrai que c'est un groupe là où on joue depuis 5-6 ans ensemble. Et donc, on retrouve une sorte de complicité, un plaisir à partager la scène, et que je pense que le public ressent aussi.
Complètement. Alors, est-ce que tu peux nous les représenter un petit peu les uns après les autres, à travers les instruments qu'ils jouent?
Alors au piano électrique, on a Paul Charnet, qui est quelqu'un qui est beaucoup, très habitué aux musiques afro-latines. Il a déjà officié dans un groupe que j'apprécie beaucoup qui s'appelle The Bongo Hop, et aussi dans un nouveau projet qui s'appelle Pombele autour des musiques afro-colombiennes. Et au saxophone, trombone, flûte, on a Boris Pokora, qui est quelqu'un qui vient plus de l'univers du jazz mais qui a beaucoup joué les musiques brésiliennes et les musiques caribéennes aussi, notamment au sein d'un projet qu'il avait monté qui s'appelait Yapunto. On a la basse place Bruno Patchworks, qui est mon partenaire de crime, avec qui je compose et j'écris les chansons en studio. On fait ce travail en duo. Lui, il va faire la production musicale. Et puis ensuite, bien sûr, on réarrange tous les thèmes avec le collectif de musiciens. Et donc, pour citer le dernier, c'est Nico Tête, batteur, qui a aussi pas mal bourlingué dans plusieurs styles de musique. Il est aussi producteur musical. Et voilà, ça fait. On s'est rencontrés à Lyon. Et moi, je réside à Lyon depuis une bonne douzaine d'années. C'est avec Bruno, on s'est rencontré un peu lors d'une jam session, Paul aussi, et de fil en aiguille, le collectif s'est monté, et ça fait donc maintenant 5-6 ans qu'on est ensemble.
Ah, c'est chouette. Alors, justement, on a remarqué sur scène que tout le monde faisait les chœurs. C'est caractéristique de votre groupe, on ne le retrouve pas dans tous les groupes. C'était une volonté de ta part ou de l'équipe de faire participer tout le monde sur les vocals?
Alors, c'est vrai que quand on écrit les chansons et on les produit en album, on ne se donne pas de limite par rapport au live, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu notre intuition nous guider. Si on a envie de rajouter des cordes, on va rajouter des cordes, des sections cuivre et forcément des chœurs. C'est quelque chose aussi qui est dans la tradition brésilienne, hein, des refrains chantés en chœur, qui est aussi dans cette optique de partage un peu de la musique. On aime bien imaginer que le public, qu'il n'est pas que spectateur, mais il est aussi acteur du concert. Et donc ça va un petit peu dans ce sens-là, d'essayer de donner le maximum aussi, ouais. Puisque du coup on est sur ce qu'on peut considérer une formule réduite, même si aujourd'hui les projets live, de plus en plus on réduit des formules minimum, duo, trio. Donc là on a déjà la chance de tourner en quintette, mais c'est vrai que par rapport à l'écriture des arrangements, on serait plutôt sur des groupes de 12 musiciens si on voulait vraiment tout retranscrire. Et donc là, ben, on est un noyau dur de 5 où tout le monde doit un petit peu se dédoubler. Donc ça se fait aussi bien sur les chœurs, ouais. Mais aussi sur des percussions. Voilà, dès que quelqu'un fait pas quelque chose, on va profiter pour rajouter soit une polyrythmie ou soit une deuxième voix pour enrichir un petit peu la musique.
Et tu verrais à l'avenir avoir un orchestre encore plus grand? C'est quelque chose auquel tu songes? Est-ce que tu en parles à l'instant, ou alors c'est pas encore forcément quelque chose qui est dans les tuyaux?
On a quand même réussi à trouver un équilibre qui est très agréable dans cette formule de quintette, et donc on est très satisfait. En plus, avec le temps qu'on joue ensemble, on se connaît mieux, on sait mieux jusqu'où chacun peut aller, ce que chacun peut amener, et on va dire qu'il y a une mayonnaise qui a pris sur cette formule quintette. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire une création avec un orchestre l'année dernière. Et c'est quand même frisson garanti quand il y a un grand ensemble qui joue. Ça devient de plus en plus rare, et c'est vrai que au niveau musical, c'est assez incroyable. Donc on va remettre ça là, cette année. On a eu la chance d'être invité par l'Opéra de Lyon pour faire une création, donc avec un quatuor à cordes en plus du quintet. Et donc ça va être présenté au fin octobre à Lyon, cette création inédite. Et donc voilà, je pense que c'est plus l'idée maintenant de garder cette formule quintet et puis pouvoir l'enrichir, on va dire, au détour de la route, avec un quatuor ou avec un invité spécial peut-être, ou des choses comme ça, pour varier un peu les plaisirs.
Alors justement, qu'est-ce qui fait la force d'un groupe? Quelles sont les qualités humaines pour toi, Joao, qui sont importantes quand on a une stabilité de groupe comme ça depuis des années? Voilà, est-ce qu'on va prendre un petit verre régulièrement ensemble? Alors vous voyez régulièrement la semaine, j'imagine, pour les créations. C'est quoi un peu le mode de vie du groupe, Joao Selva?
Alors il y a un gros travail de préparation avant la tournée, où justement on réarrange tous les thèmes collectivement. Donc c'est une sorte de mise à plat. On essaie d'extraire un peu vraiment la chanson, c'est-à-dire la ligne mélodique et la pulsation. Et là-dessus, chacun va venir avec des propositions. Et je pense que le secret, c'est finalement l'écoute. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'horizontalité. C'est-à-dire que même si j'ai écrit les chansons, même si Bruno il a fait les arrangements, on est complètement ouvert aux propositions qui viennent de chacun. Et aussi de ne pas figer les choses. C'est-à-dire de penser... la musique comme vraiment une matière vivante qui peut évoluer du jour au lendemain en fonction justement du vécu collectif. Et donc je pense que c'est peut-être ça l'intelligence un petit peu de groupe, c'est cette capacité de s'adapter aux uns et aux autres et aux envies aussi du coup des uns et des autres. Là par exemple sur ce nouvel album, on a changé non seulement le plan de scène mais aussi quelques textures de son. Je pense notamment au clavier où on avait pas de clavier avec des sons un peu disco comme on a maintenant avec un Juno, un Korg, et donc ça ce sont c'est des choses qui viennent un petit peu par l'expérimentation, c'est-à-dire se laisser aussi l'occasion d'essayer même si ça n'aboutit pas. Et c'est ce qu'on fait quand on est en répétition, en création, en résidence, c'est-à-dire qu'on prend toutes les propositions et on essaye et on balaye pas, parce que des fois on est nous-mêmes surpris par le résultat et c'est ça qui fait que du coup on arrive à continuer d'évoluer, je pense, collectivement.
Alors tu parlais de matière vivante qui constitue la force de ce groupe, ça va nous emmener sur la suite de cette interview au sujet de ton nouvel album Passarino, qui est sorti dernièrement. Voilà, on avait Nabégar qui était sorti en 2021. Là, 2 ans plus tard, on a ce nouvel album. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, puisque ça parle d'écologie, donc le lien avec la matière vivante, elle pourrait être un peu trouvée. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails sur d'un point de vue des messages, tant qu'au niveau de la production musicale, même si tu nous as déjà un peu présenté les membres du groupe.
Alors, c'est vrai que c'est un album qui a été écrit dans son entièreté pendant la période des confinements qu'on a eu pendant le Covid. Et c'était une période qui était un petit peu, on va dire, montagne russe au niveau des émotions. Et donc on retrouve ça dans cet album, un peu plus de contraste peut-être, des morceaux plus introspectifs et d'autres plus explosifs. Et c'était un petit peu ce mouvement qu'on vivait de « ah ça déconfine, ah ça reconfine, ah ça déconfine ». Et puis aussi de vraiment... avoir la musique comme une sorte de bouée de sauvetage un peu dans ces moments difficiles, que ce soit au niveau personnel ou collectif. Mais c'est vrai que peut-être que ce qui était dominant à ce moment-là, de mon point de vue, j'avais l'impression que l'humanité était en train de manquer d'air. Mais parce que la planète manque d'air, donc cette thématique écologique est venue très très forte pendant ce moment-là, et aussi par rapport à des lectures que j'ai eues à ce moment-là sur pas mal de penseurs amérindiens et de justement avoir un regard sur cette crise écologique qu'on vit, mais un regard qui n'est pas angoissé, qui n'est pas fataliste, mais au contraire qui a un regard plein d'espoir et qui stimule justement l'imaginaire à d'autres futurs possibles qui soient plus agréables que celui qu'on a l'impression d'être voué à vivre. Donc voilà, c'était une manière pour moi de participer. Moi je vois vraiment cette fonction un peu sociale de l'auteur-compositeur comme une sorte de porte-parole de notre temps, finalement, de notre époque. Et pour moi, c'était important de mettre ça en lumière, en mots, en musique, parce que c'est quelque chose que je ressentais très fort à ce moment-là.
Alors, tu parlais d'écrivains, de penseurs amérindiens. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces penseurs? Ils étaient originaires du Brésil. On sait que les Amérindiens, on pouvait les trouver autant dans la cordillère des Andes qu'au Canada aujourd'hui. Est-ce que tu t'es inspiré de certaines régions du monde ou sur une ?
Il y a plusieurs auteurs brésiliens de tribus amérindiennes différentes. Je pense à Daniel Munduruku ou à Ailton Krenak. Ce dernier a écrit justement un livre qui est très puissant qui s'appelle « Des idées pour ajourner la fin du monde, pour repousser la fin du monde ». Et où justement il explique que pour les Amérindiens, la fin du monde, elle a déjà commencé il y a plus de 500 ans. Et qu'avec l'arrivée justement des colons, les maladies qui ont été amenées, la déprédation de l'écologie, finalement tout ce qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui, ils le vivent déjà depuis 500 ans. Et ça ne leur a pas empêché de garder justement de l'espoir parce qu'ils ne distinguent pas l'homme de la nature. Et la nature, elle a une puissance. Il n'y a qu'à voir après des feux. ce qui est d'actualité par rapport à ce qu'on vit en Europe actuellement avec des feux à répétition. Et quand on voit la force de la nature, comment la nature elle se relève après, et donc elle a ce pouvoir de régénération incroyable, et on devrait s'inspirer justement de ça pour ne pas perdre espoir. Mais pour cela, la première chose, c'est justement de s'identifier nous-mêmes qu'on étant partie de cette nature et pas quelque chose à part.
C'est vrai, toi tu baignes dans la nature régulièrement, tu as besoin d'avoir ces temps de déconnexion dans des forêts, au bord de la mer ou ailleurs, tu as des lieux un peu de pèlerinage, comme ça tu te retrouves de temps en temps.
Oui, je me considère une personne quand même contemplative, et d'autant plus pendant le confinement où on était vraiment du coup pour le coup enfermé, et il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour quelque part voyager, que ce soit la beauté d'un coucher du soleil, les oiseaux qui chantaient énormément à ce moment-là. La chanson Passe à ligne, justement, c'est cette inspiration-là d'ouvrir la fenêtre le matin et entendre les oiseaux chanter et se dire en fait tout va bien, ouais, finalement, malgré tout. Oui, moi, pour moi, c'est important d'avoir ces temps de déconnexion. En plus, on est dans un métier quand même de musicien, on est beaucoup sur la route, on est beaucoup entouré énormément de monde tout le temps, et de pouvoir justement se retrouver, justement, pas seul avec soi-même, mais connecté plutôt avec la nature, c'est quelque chose qui permet de se recentrer et trouver une sorte de second souffle quand on est un petit peu épuisé.
Alors justement, ce second souffle aujourd'hui, est-ce qu'il est un peu politique aussi? Il y a un an, quand on avait parlé de ton album Navegar aussi, il y avait ces enjeux d'élection au Brésil. Alors un an, à peu près un an je crois, après l'élection de Lula, comment tu vois les choses toi aujourd'hui? Ça a bougé un petit peu, il y a un petit ouf de soulagement dans ce que toi tu ressens, João, en tant que franco-brésilien?
Oui, alors j'étais au Brésil pour le carnaval en début d'année. Et donc c'était peu de temps après la passation de pouvoir. Et c'est vrai que même les élections avaient eu lieu en octobre, mais Bolsonaro avait perdu, il y avait quand même une crainte qu'il n'y ait pas justement de passation. Et d'ailleurs, il est parti aux États-Unis, et il y a eu une tentative un peu de coup d'État à l'américaine, si j'ose dire, comme il s'est passé au Capitole pour Trump. Heureusement, l'armée brésilienne n'a pas retourné sa veste, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Et c'est vrai que j'avais l'impression ces débuts d'année comme si le peuple brésilien sortait d'une sorte de longue apnée et pouvait enfin respirer. Et c'est vrai que notamment ça se cumulait avec le fait que pendant 2 ans on n'avait pas eu de carnaval vraiment à cause du Covid, et donc de pouvoir retrouver un petit peu cette joie collective, ce moment d'allégresse, c'était le carnaval est d'habitude une catharse, mais là c'était encore plus fort, je pense, avec le changement de gouvernement et la fin de la pandémie.
C'est vrai, t'attends des choses là de ce gouvernement dans les années qui viennent? On sait que la politique ça prend souvent du temps. Est-ce que toi il y a des choses sur lesquelles t'attends un bilan présidentiel plus concret?
Déjà, il y a eu des vrais changements, et je pense notamment aux minorités. C'est là où Bolsonaro a fait le plus de mal, que ce soit justement les peuples amérindiens qui ont beaucoup souffert pendant ces 4 dernières années. Tous les processus, enfin les terres étaient grignotées par l'exploitation. Et donc pour ces peuples-là aussi, je pense aux communautés LGBT qui ont été beaucoup poursuivies ces dernières années. Mais de manière générale, les défenseurs des droits de l'homme, avec beaucoup d'assassinats politiques qui ont eu ces années. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un changement encore macro au niveau de la politique et de l'économie, parce que Lula il doit quand même composer avec le centre, avec la droite, et il le fait très bien. Mais c'est vrai que ça avance peut-être plus doucement que ce qu'on aurait souhaité, mais quand même, pour encore une fois toutes les minorités, le changement est vraiment radical, et ça a été du jour au lendemain.
On suivra tout ça de près hein, dans les mois et les années qui viennent. On approche de la fin de cette interview. J'aurais souhaité revenir un peu sur ta participation à des projets d'action culturelle en milieu scolaire et carcéral auxquels tu avais participé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore des choses qui sont en action ou qui pourraient peut-être un jour revenir?
Oui, c'est... ça rejoint un petit peu cette idée qu'on a dans la culture traditionnelle du musicien comme un porteur de culture finalement, et qui n'est pas isolé dans sa tour d'ivoire. Au contraire, il est très inséré dans sa communauté, dans la société. Et pour cela, c'est important d'essayer de toucher de manière plus large. Et pour cela, rien de mieux que d'aller justement vers les enfants ou des publics transgénérationnels. Et aussi en prison, on a eu l'occasion de faire deux concerts en prison là, ce mois-ci.
D'accord.
Et c'est des moments toujours très forts et humainement très intenses où on a vraiment l'impression d'être à la bonne place. Finalement, quand on écoute le retour de personnes qui nous disent « Ah, j'ai jamais eu l'occasion de faire un concert ou de pratiquer de la musique et de la danse » et que là, pendant le temps du concert, on s'est senti libre, on s'est senti vivre, et bah, c'est quand même très puissant.
Ouais, c'est fort. Alors, tu parlais d'une création en juillet 2022 de Jazz à Vienne, et on finira là-dessus, avec un orchestre d'étudiants à Grenoble. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus sur le projet qui peut-être continue encore à l'heure d'aujourd'hui?
Alors c'était une création vraiment magnifique. Pour moi, de découvrir mes chansons dans une formule comme ça, en grand orchestre, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment des frissons sur scène. Et j'ai beaucoup goût. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer un arrangeur qui s'appelle Vincent Stéphan, avec qui du coup je continue de collaborer et qui sera aussi donc... partie prenante de ce projet à l'Opéra de Lyon à l'automne. Et c'est, voilà, c'est, je pense que j'ai eu la chance de commencer cette carrière solo, comme on dit, il y a quelques années, mais ça reste une aventure collective et de pouvoir, sur le chemin comme ça, rencontrer d'autres forces vives, d'autres personnes qui viennent apporter leur vécu, leur expérience, et bah, c'est une grande chance. Je pense souvent à cette idée de Amadou Mpateba, qui était un penseur africain qui spécialise de la tradition orale et qui disait que justement l'oralité c'est un peu l'école du caméléon, c'est-à-dire qu'on avance en prenant un petit peu les couleurs de là où on va, en goûtant avec la langue, puisque le caméléon il utilise sa langue pour reconnaître les odeurs, tout ça, et donc c'est voilà, pour moi c'est une manière de me redécouvrir et de me connecter avec d'autres musicalités, ce qui est voilà, toujours découverte, incroyable. La musique, c'est quand même un univers sans fin. Et donc, de pouvoir aller plus loin, c'est une grande chance.
Donc, fin de tournée estivale, d'ici un mois et quelques. Quels sont les projets après, dans les mois qui viennent? Où c'est qu'on pourra te retrouver, Joao, pour défendre Passarino?
Alors, bon, il y aura toujours pas mal de concerts sur Passarino. On a aussi, encore une fois, cette création avec le Quatuor à cordes à l'Opéra de Lyon. Et puis, un autre projet qui est un petit peu en route, c'est un... J'ai écrit un conte musical inspiré justement de thèmes traditionnels du Brésil pour raconter justement encore une fois cette question de l'écologie d'une autre manière, une manière plus ludique peut-être, et qui était aussi une façon pour moi de me reconnecter aussi avec le Brésil pendant ces années où d'habitude j'y vais tous les ans, et là pendant le Covid, donc c'était une première fois où j'ai resté autant de temps sans y aller, et on espère pouvoir finaliser cette création là aussi à l'automne pour pouvoir la présenter l'année prochaine.
D'accord, bon, on sera bien heureux de revenir vers tes nouveaux projets puis d'avoir une troisième interview peut-être l'année prochaine en 2024. Merci Joao, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Salut.
Sem roubar nem matar, o pobre foi condenar. Mesmo assim ainda canta, som preto, canário pardo. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Periquito, patati. nativa, Urioi azulão, deixa a chá da bananeira lá no alto do sertão.